Il est le rapporteur d'une proposition de loi qui peut faire sourire. Elle vise à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes. Cette loi est débattue au Sénat ce matin. Pierre-Antoine Lévy, sénateur du Tarn-et-Garonne, est en ligne pour nous la présenter. Bonjour, monsieur le sénateur.
Oui, bonjour.
Alors, il va tout de suite falloir nous éclairer. Qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine sensoriel des campagnes ? Que recouvre cette expression ?
Alors, le patrimoine sensoriel des campagnes, c'est ni plus ni moins que les sons et les odeurs que vous pouvez avoir, que vous pouvez avoir à la campagne. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a été dénommé patrimoine sensoriel, pour les deux sens.
Et alors, on a besoin d'une loi pour le protéger. En gros, on parle du chant du coq, des odeurs de crottin, c'est ça dont il s'agit, hein ?
Effectivement, même du bruit du tracteur, ça peut. Voilà, donc c'est vrai que cette loi, elle arrive aujourd'hui. C'est une proposition qui a été présentée par le député de la Lozère, Pierre Morel-Alichier, en début d'année 2020, qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui a été retouchée par le Conseil d'État. C'est une loi qui a été présentée, c'est assez rare. Le Conseil d'État, donc le texte aujourd'hui est conforme au Conseil d'État. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une loi pour protéger la campagne ? C'est pas forcément une loi pour protéger, ça va bien sûr protéger la campagne, mais surtout ça va donner aussi une boîte à outils aux élus et aux maires qui sont en première ligne dans les conflits de voisinage à la campagne. Vous avez entendu parler de plusieurs affaires célèbres, vous savez, les coqs qui chantent.
Bien sûr, le coq Maurice.
Le coq Marcel, voilà, notamment le coq Maurice. Coq Marcel qui a été tué par le voisin, tout simplement parce que le voisin était excédé par le bruit du son du chant du coq. Et donc c'est vrai que les élus, les maires, les conseillers municipaux, les adjoints sont souvent sollicités dans les petites communes pour faire office de médiateurs dans le cadre de conflits de voisinage. Voilà, donc cette loi qui est assez rapide, assez simple, c'est un article, va permettre déjà d'inventorier le patrimoine, qu'est-ce que le patrimoine sensoriel dans les territoires. Ça permet de qualifier l'identité culturelle des territoires.
Oui, parce que le patrimoine sensoriel peut varier d'un territoire à l'autre. Il y a par exemple les cigales dans le sud qu'on ne va pas retrouver en Normandie, c'est des choses de cet ordre-là, qui va donner lieu à des adaptations selon les territoires ?
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on a demandé dans l'article 1er aux services régionaux d'inventaire du patrimoine culturel d'inventorier, d'identifier les composantes du patrimoine. C'est-à-dire que comme c'est, vous savez, dévolu aux régions, conservateur régional du patrimoine va identifier dans sa région les composantes de ce patrimoine sensoriel.
Et alors, vous dites que cette loi, elle comporte un seul article. Qu'est-ce qu'il dit, cet article ?
Alors, c'est un article qui est décomposé sur l'article 1er, bien sûr, article bis, article terre. Donc déjà, dans le premier article, on va modifier le code de l'environnement. En tout cas, l'objectif, c'est de rajouter dans le premier alinéa de l'article L110 du code de l'environnement les mots, les sons et les odeurs qui les caractérisent. C'est-à-dire qu'on va compléter ce premier alinéa. Parce que ce n'était pas identifié dans le code de l'environnement.
C'est pas identifié. Alors, ça semble assez fou tout de même, et presque anecdotique. Qu'est-ce que ça dit de notre société, selon vous, monsieur le sénateur, qu'il faille préciser de façon aussi pointue dans la loi ce qu'est le patrimoine sensoriel des campagnes et la nécessité de le protéger ?
Cette loi, elle est assez intéressante parce qu'elle ne vise pas à sanctionner et réprimander tel et tel citoyen. Je crois qu'elle vise à mettre en place un code de bonne conduite, de fonctionnement entre les citoyens, entre les ruraux et les néo-ruraux. Vous savez, il y a eu pas mal de conflits de voisinage à la campagne, c'est ce dont on parle le plus. Il y a également des conflits de voisinage en ville, parce que quand les citadins vont s'installer à la campagne, part du principe qu'il n'y a pas de bruit. Or, il y a du bruit à la campagne. Vous savez, les activités aujourd'hui sont qu'il y a du bruit à la campagne. La campagne n'est pas exclusive d'un monde sans bruit. On le sait aujourd'hui. Vous avez des activités économiques, agricoles qui font du bruit. Vous avez des activités agricoles, des tracteurs notamment, qui arrivent à travailler en fonction des contraintes juridiques et administratives la nuit aussi, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas autorisées le jour, qui sont autorisées la nuit. Donc, on a des conflits de voisinage. L'objectif, c'est de créer un code de bonne conduite et permettre que les citoyens qui viennent s'installer à la campagne y trouvent leur compte. Et également, donner, je vous dis encore une fois, une boîte à outils aux élus. C'est-à-dire que les élus ruraux connaissent tout le monde. Dans les petites communes, tout le monde se connaît. Et souvent, le maire est sollicité, donc est appelé en renfort pour régler un conflit entre deux personnes qu'il connaît. Compliqué.
Mmh.
Vous avez également dans le ces conflits ont un petit peu été exacerbés par le confinement. Quand vous achetez une maison à la campagne, vous passez un week-end, vous passez 2-3 jours, le week-end, vous n'êtes pas forcément gêné par le bruit. Il n'y a pas forcément le bruit de bruit le week-end, où il n'y a pas forcément la même activité, et vous n'y attachez pas d'importance quand vous venez vous reposer 2-3 jours. Par contre, avec le confinement, vous avez des gens qui sont venus passer 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, là, ça peut créer des problématiques.
Donc là, ça sera inscrit dans la loi, hein. Les coqs chantent, les vaches meuglent.
Non,
si vous n'êtes pas content, passez votre chemin.
Ça ne sera pas inscrit dans la loi. C'est-à-dire qu'on va mettre dans le code de l'environnement, donc effectivement, qu'il peut y avoir des sons et des odeurs qui caractérisent le patrimoine. Ça ne sera pas non plus une loi cette loi ne va pas tout décider. Il va y avoir également quelque chose d'assez important. C'est dans les 6 mois qui vont suivre la promulgation de la loi, le gouvernement va remettre au Parlement, donc va nous remettre un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le Code civil le principe de responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Vous savez, il y a la notion de trouble anormal de voisinage.
Mmh.
Quelles sont les appréciations des caractères? On ne sait pas trop aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à l'appréciation, le trouble anormal de voisinage. Vous allez avoir également un sujet important, c'est la notion d'antériorité. Vous avez une activité, vous avez une exploitation, et vous avez quelqu'un qui vient s'installer à côté et qui porte plainte. Ben, si l'activité est antérieure à la demande de permis de construire à côté, à l'installation, et surtout que le respect est là, ben, on pourrait dire qu'il n'y a pas de trouble anormal de voisinage, par exemple.
Voilà, alors, vous parlez de code de bonne conduite. Effectivement, on comprend bien que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On comprend aussi qu'il y a en creux, vous l'avez dit, la cohabitation entre les néo-ruraux et les locaux. Est-ce à dire que la revitalisation des campagnes, dont on entend toujours beaucoup parler en ce moment, surtout du fait du confinement et des idées que certains peuvent avoir d'aller vivre à la campagne, ça n'est pas toujours synonyme de parfaite harmonie dans les villages, hein? Est-ce que c'est quelque chose vous constatez, vous qui êtes élu local?
Oui, tout à fait. J'étais élu local, alors que j'étais élu d'une grande ville, Montauban. Donc à Montauban, effectivement, on a des hameaux où vous pouvez avoir des problématiques de ce style. C'est plutôt vrai dans toutes les communes rurales de toute la France. J'ai auditionné un certain nombre d'élus, notamment au Sénat, puisque vous avez au Sénat des sénateurs qui sont élus de petites communes, qui me disaient, bah, effectivement, nous, cette loi, elle a du sens, parce qu'on est un petit peu désemparés quand on vient nous voir. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Donc elle va être votée. Alors finalement, elle va être votée dans la journée, cet après-midi, ça a été un petit peu permuté. Mais une fois qu'elle sera votée, ce qui est important, c'est qu'on va la voter conforme, normalement. Ce qui veut dire qu'on ne va pas toucher au texte, puisque ce texte ayant été vu par le Conseil d'État et validé, on va la voter conforme, ce qui permet de la rendre promulgable très rapidement. C'est que quand on modifie par amendement, ne serait-ce qu'un petit texte ou quand on enlève un alinéa d'un article, ben ça repart à l'Assemblée nationale. C'est réétudié dans un certain temps et ça revient au Sénat. Là, la loi, si elle est votée aujourd'hui de cette manière, permettra donc au ministre, permettra donc l'application et la promulgation dans les jours qui viennent et son inscription.
De mettre un terme, ou en tout cas de se préserver de conflits de voisinage dans les campagnes. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Lévy. Je rappelle que vous êtes sénateur du Tarn-et-Garonne et que donc vous êtes le rapporteur de cette loi qui vise à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes. Elle sera débattue au Sénat cet après-midi. À très bientôt. Merci, monsieur le sénateur.
Bonne journée. Au revoir.